J'étais sur le rapport.
Oui.
Effectivement, Japan Milan, Dominance, etc. Donc, parmi les mots d'ordre du rapport, il faut promouvoir la capacité d'innovation dans le secteur de l'agriculture familiale à de multiples réseaux. La capacité d'innovation individuelle doit être renforcée au moyen de l'investissement dans l'éducation et la formation. Il faut mettre en place des mesures d'incitation favorisant la création de réseaux et de liens qui permettent aux différents acteurs du système d'innovation, agriculteurs, chercheurs, prestataires de services, de conseils, filières de transformation, etc., d'échanger des informations et d'œuvrer à la réalisation d'objectifs communs. Bon, il y a un autre point sur l'organisation de producteurs performants, des organisations de producteurs performantes et ouvertes à tous peuvent favoriser l'innovation et ouvrir des marchés nouveaux.
Ouais.
J'ai pas l'impression, si tu veux, que l'orientation de
l'entreprise
va exactement dans le même sens. Que
c'est pas étonnant. C'est pas étonnant.
En même temps, c'est intéressant. Parce qu'en fait, je rentre dans les détails, mais bon, ce qui m'a intéressé, c'était les chiffres.
Oui, ça l'est vu.
Voilà.
Mais les chiffres, c'est pas l'enfer.
Ma remarque,
c'est. Mais par ailleurs, juste une seconde, mais c'est que. En même temps, je. Parce que le point de le rapport à la FAO, et ça je ne l'ai pas dit, mais c'est important, c'est que le fait que l'agriculture reste à très grande dominance familiale, locale, etc., n'empêche pas la pauvreté, la très grande pauvreté. Non, en fait, je pense que les rapports sont ici destinés à lutter contre la pauvreté extrême et.
Oui, bien sûr.
Il y a ça. Par ailleurs, bon, il y a toutes sortes, maintenant, la coopération, elle a changé un peu de nature. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un chapitre que je n'ai pas du tout fait, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est justement une écologie à la fois démocratique et high-tech. Quoi. Parce qu'en fait, la question du high-tech, moi, ça m'intéresse beaucoup. Il y a une agriculture à la fois écologique, durable et high-tech. Après, il y a eu des programmes de coopération qui sont vraiment très, très, très intéressants, je trouve, et qui ne sont plus du tout...
Parce que je vais pas rappeler, en fait, je suis désolée. Non, mais c'est que le mot d'ordre du ministère de l'Agriculture, là, et tous les deux, on bosse à agro-paritaire, c'est la transition agroécologique. Donc, cette question de changer de paradigme et des normes d'agronomie pour faire émerger des modèles. Bon, de toute façon, il n'y a pas une agriculture. Moi, j'ai pas mal bossé dans le Massif central, si vous voulez, il y a des agriculteurs, il y en a. Mais des agriculteurs qui ont envie d'être, qui sont encore et qui se considèrent comme des paysans jardiniers, pour de vrai, il n'y en a pas des masses, ce qui n'empêche pas qu'ils aient un rapport esthétique à la biodiversité qui est certain. Donc, je trouve que c'est très difficile. En fait, on parle d'une espèce de multiplicité, y compris dans un pays développé comme la France, qui rend très difficile les choses et qui rend assez difficile la transition. Et puis, avec des visions complètement contradictoires de la transition, si vous voulez, j'ai vu là, des élèves de première année, je ne sais pas si tu les vois, ils n'ont pas, cette année, je les ai vus à la fin de la première année, les agronomes, comme on les forme encore dans la grande école d'INAPG, ils n'ont pas du tout entendu parler d'environnement après leur première année en sortie de 2 ans d'école. Donc on est 5 ans quand même, après la mise en place, le FOLD, il va dégager l'année prochaine. Donc cette transition, elle est difficile, ils sont allés vers l'accompagnement plutôt des lycées agricoles. Et donc là, le positionnement en fait du monde agricole, c'est pas la FNSEA, le monde agricole en France, je trouve que c'est vachement intéressant ce que vous racontez, mais c'est ce qui agite les campagnes actuellement, et ce qui agite du coup quel type d'innovation en fait on favorise. Est-ce qu'on est encore dans l'INRA et le transfert top-down, ou bien est-ce qu'on privilégie justement des espèces de modèles alternatifs qui sortent même, y compris de la bosse, quoi. C'est-à-dire on accompagne des choses extrêmement diverses, et je pense que préserver cette diversité, c'est quelque chose de très important. Vous voyez que la FNSEA qui fait la cogestion, ça l'intéresse quand même pas trop, la PAC non plus, etc. Alors, sans parler après des agricultures vivrières. Alors l'Afrique, c'est différent de tous les autres endroits, et la reconnaissance en fait du paysan est une question qui agite les instances internationales depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui veulent reconnaître cette entité. Bien entendu, quand on va négocier sur les questions d'agriculture dans le domaine des accords internationaux, il n'y a pas de place pour cette paysannerie. Et en France, quand même, l'agroalimentaire est le premier poste de la balance commerciale française. Donc les enjeux sont des enjeux industriels. En tout cas, moi, je vois l'impossibilité de notre école à rentrer en fait dans la question de la transition agroécologique, elle est bien parce que ce qu'on porte finalement, c'est l'agro-business, c'est Villemorin, quoi. Ça n'a pas changé pour l'INAPG, ou en tout cas l'espace pour porter des modèles alternatifs, il n'est pas très évident et on n'est pas très nombreux à les porter. Et du coup,
je rencontrais des jeunes qui sortent de l'agro et qui partent de ça.
Oui, non mais il y en a 10. Non mais il y en a, ça les agite, mais ça agite sûrement plus les élèves de l'agro que les profs qui les forment. Et il y a aussi plein d'élèves de l'agro qui vont bosser pour c'est plus Villemorin, ça n'existe pas, mais du coup ils sont pas oui pour Monsanto, c'est-à-dire qu'on a bien ce double et la partie des alternatives.
Les jeunes agriculteurs, ouais. Enfin, moi je connais pas grand chose, mais ça bouge.
Ça, dans la réalité, en tout cas même dans un espace comme le Massif Central où on a des pratiques extensives qui sont confrontées à des pratiques très intensives dans la plaine de la Limagne, donc avec des contrastes énormes, bouger est pas si évident que ça. Quoi. Donc et ça bouge aussi peut-être beaucoup plus dans les espaces urbains ou périurbains où il y a effectivement, et ça dépend des endroits, mais en tout cas dans les alternatives, souvent c'est effectivement des jeunes qui appartiennent pas forcément, hein, on n'est pas forcément au milieu paysan qui font de la permaculture et qui deviennent des agriculteurs bio. Après, on ne peut pas parler en général, je trouve que c'est compliqué. Mais ce que vous disiez, pour en finir sur les jardins partagés, moi j'étais un peu surprise, mais je n'ai pas du tout travaillé là-dessus et je ne sais pas qui l'a fait. Mais en tout cas, ma connaissance des jardins partagés à Tours, dans la ville où j'habite, donc c'est pas tant du bobo que ça, donc c'est pas Paris, mais du coup c'est sûrement des jardins ouvriers, donc avec une déconnexion, et plutôt effectivement des populations immigrées, donc c'était pas très industriel, je sais pas, il y a une communauté portugaise très importante à Tours, maghrébine, je crois que c'est beaucoup les Portugais, en fait, les Italiens, je sais pas s'il y en a eu beaucoup, donc qui continuent à gérer les jardins patrons. Partagés qui existent d'ailleurs plutôt dans, pas en ville-centre, mais Saint-Pierre-des-Corps où il y avait la SNCF et les industries, et puis il doit y avoir de la riche, il y a beaucoup de maraîchage. L'accès au... En fait, c'est très difficile d'avoir des parcelles, donc ça fonctionne sur un mode associatif qui est relativement fort clos. Et par contre, ce que je sais aussi des problèmes de passage au zéro phyto dans l'espace urbain, c'est qu'en fait, c'est des espaces sur lesquels il n'y a pas du tout de problématique environnementale. C'est-à-dire qu'ils, globalement, ils ont des pratiques qui sont très très merdiques, qui consomment beaucoup de phytosanitaires. Et les gens qui viennent faire de la perma ou là-dedans, c'est compliqué de faire passer des bottes. C'est vraiment des jardiniers qui balancent plein de merdiers sur leurs limaces, etc. Donc j'ai l'impression que sur les jardins partagés dans certains espaces, le passage à des conduites zéro phyto sur ces espaces où il y a des fleurs et des légumes, il est aussi compliqué que pour les plates-bandes dans les jardins familiaux. Mais j'ai pas travaillé là-dessus, c'est vraiment là ma connaissance, mais c'est une question qui est intéressante.
Et en tout cas, moi j'avais surtout étudié les jardins partagés des années 70 et les community gardens, c'est là qui sont des lieux vraiment d'indépendance alimentaire, de subsistance, aussi de tenir les gamins en dehors de la rue, de lutter contre les coups, de se reposer de l'exiguïté du logement. Donc là, vraiment, le jardin, il joue vraiment un rôle social d'intégration d'ailleurs. Et ils sont, on a repéré jusqu'à 110 nationalités ou voilà, ethnies différentes, dans des jardins. Alors, à travers les Green Guerrillas et tout ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et bon, il est clair que les problématiques environnementales ou écologiques ne sont pas au rendez-vous à l'époque. Sauf que, y a déjà une conscience de la malbouffe et une conscience du légume frais. Quoi. Enfin, l'idée, c'est quand même de manger des légumes et aussi d'apprendre aux enfants que les aliments ne poussent pas sur les supermarchés, pas les étagères des supermarchés, là, comme on disait. Hein. Mais donc, évidemment, l'accès via les bricomarchés et compagnie à des sites pesticides, de phyto particulièrement invasifs, voilà, et à accompagner aussi le développement du jardinage, de la maison de banlieue, etc. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a de plus en plus, j'ai remarqué de plus en plus de, via biodynamie, permaculture et compagnie, et puis aussi la conscience des gens, le soutien apporté aussi aux jardiniers, cultivateurs alternatifs, donc de plus en plus, enfin la conscience environnementale est une conscience qui gagne, quoi, y compris les gens qui ont accès à une parcelle. Maintenant, bon, c'est sûr que tout ça se met en place progressivement. Mais c'est pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, le. Le fait d'accéder à la terre à petite échelle et d'avoir un comportement écologique, pas nécessairement ensemble, très clairement, bien sûr.
J'avoue que j'étais un petit peu surpris, en fait, par ta manière de présenter les choses, parce que J'ai ressenti en tout cas une espèce de un peu de d'essentialisation de cet objet jardin partagé qui se caractériserait par une taille déjà petite. Après, tu as utilisé pas mal de formules, disons, visant à éloigner les critiques qu'on pourrait faire par rapport à cette essentialisation. Mais sur le fond, moi, le sentiment que j'ai eu, quand tu dis, pareil, tu commences ton intervention en disant les risques les plus importants sont ceux créés par l'homme. Ensuite, tu dis les jardins partagés sont un système planétaire qui a existé de tout temps. Après, les jardins partagés sont la grammaire de base de la démocratie. Moi, j'ai ressenti ça un petit peu comme une essentialisation. Et la remarque de Francis, c'est finalement d'en faire un objet social, traversé par les sociétés dans lesquelles ces jardins-là peuvent exister. Et nous, par exemple, on travaille un petit peu sur le vivre ensemble dans les écoquartiers, et le jardin partagé est, entre guillemets, une tarte à la crème du vivre ensemble dans les jardins, dans les écoquartiers. Et j'ai un étudiant de Sciences Po au Lille de chez lui là-bas qui a travaillé sur le jardin partagé, et il montre finalement qu'il y a autant de modes de gestion de ces jardins que de situations locales, notamment des rapports, enfin des municipalités en place, des rapports de force existants, etc. Et donc je me posais la question par rapport justement à la sociologie pragmatique, c'est-à-dire que le sentiment que j'ai eu, c'est que finalement la place de l'enquête diminue, c'est-à-dire la place de l'enquête que porte le pragmatisme. Là, j'ai pas eu l'impression que les individus ont l'occasion, en fait, dans la présentation que tu en fais, ont l'occasion de le faire par rapport à leur milieu, et la place du pluralisme aussi, c'est-à-dire quid du pluralisme dans la présentation que tu nous as faite, c'est-à-dire pluralisme des expériences, pluralisme des postures, des interactions, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un peu une remarque, un étonnement. Et alors, par rapport à ce que dit Bruno, tu as commencé ton intervention en disant il y avait quelque chose qui était partagé par tous les acteurs, c'était leur perception de la situation d'urgence écologique.
L'énonciation.
Et sauf que tu n'as pas trop approfondi ce qu'il y avait derrière cette énonciation et ce qui faisait que cette énonciation était un passage obligé. Et donc si cette énonciation n'est qu'un passage obligé, ben, à ce moment-là, si tu le présentes dès le début et que tu montres les rapports de force sous-jacents, etc., les différentes positions, à ce moment-là, on comprend mieux ce qui se passe après. Parce que sinon, on perçoit un peu comme contradictoire cette situation d'urgence écologique qui serait partagée et en même temps, un territoire qui n'a pas de richesse naturelle, qui n'est pas, donc pas de territoire écologique finalement à défendre. Donc ça peut paraître déconnecté, une perception évidente pour tout le monde, alors que pourtant le territoire ne porte pas cette perception. Et après, on a du mal aussi à comprendre comment il peut y avoir à la fois une dépolitisation de la question de l'urgence et ce que tu dis sur une discussion qui continue. C'est-à-dire, on pourrait... Parce que tu ne le présentes qu'à la fin, hein, le fait que les activistes se désengagent finalement du processus, mais on a du mal à comprendre comment ils ont tenu jusque-là, si l'énonciation du départ n'était qu'une énonciation, et que finalement les rapports de force, les positions, etc., devaient s'exprimer dans... Alors j'avoue que moi c'est un écoquartier très particulier quand même, un écoquartier où il n'y a pas d'habitants, enfin, à part la petite rue Stephenson qui est vraiment en marge du quartier, on a du mal quand même à parler d'écoquartier de façon évidente en tout cas, voilà. Donc c'est quand même un contexte très particulier.
Je vais rajouter juste par rapport à la collection des écoquartiers, enfin, c'est pas une collection, c'est la multiplicité des expériences. Est-ce que ça joue dans ce genre de processus et dans les appuis sur d'autres,
je vais répondre.
Ou on pose encore des questions, comment on fait? Est-ce qu'on on stocke des questions?
Bon, on va stocker les questions, sinon on va
je préférerais, pour pas oublier. Non, de toute façon, si ça vous dérange pas, je préfère réagir au fur et à mesure, parce que sinon, je réponds pas. Ça devient global. En deux mots, je pense pas que tout essentialisme soit une mauvaise chose, d'abord. Je dirais que c'est pas nécessairement un crime ou quelque chose de très mauvais. On a besoin, parfois, on parle d'émotion, on a besoin de valeurs auxquelles se rattacher, et toute valeur peut être un peu accusée de, de sortir du flux de l'expérience et de l'enquête et de poser un point, quoi. Donc là, moi, j'ai voulu faire un point. Et ce point, vraiment, là, joue un rôle très précis. C'est un point qui est destiné à revisiter la démocratie, à la valoriser et à montrer que, en gros, elle reposerait sur un nouvel individualisme pour parler comme Dewey. C'est quand même ça. Mon souci, c'est d'en finir avec une vision anti-individualiste de la démocratie. Donc, quelle est la place de l'individu dans un système politique qu'on appelle la démocratie et que peut faire finalement ce système politique pour préserver les chances d'individualisation des individus? Ça, ça me semble, voilà, on a beaucoup insisté sur quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Et moi, j'aimerais bien, personnellement, ça fait partie de mes priorités, que de substituer à collectif le commun, la communauté, et de montrer aussi qu'il n'y a pas de communauté sans individualité constituée. C'est-à-dire mise en commun, communication, création de commun, et ce qu'on voudra. Donc, et du coup, le jardin partagé, d'une part, m'a semblé être un bon, un peu comme l'œuvre d'art d'ailleurs, parce que je travaille beaucoup sur l'art contemporain et le voyage public des œuvres, que j'ai aussi un peu essentialisé, sachant qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ne voyagent jamais. Et donc, j'ai comparé la citoyenneté. En l'occurrence, ce sont des postes d'observation, si vous voulez, pour penser finalement des notions qui sont avec nous, mais en même temps qui sont souvent torturées par toutes sortes d'idéologies contradictoires entre elles, donc que je voulais pas, sur lesquelles je, enfin, dont je ne vais pas parler. Alors, donc voilà, d'une part, je pense que ça c'est et de, par ailleurs, j'ai quand même lu énormément de choses et il se trouve que cette forme, enfin le jardin partagé, voilà, on pourrait trouver d'autres mots, mais qui ont encore une fois des tailles et des fonctions assez diverses et sans doute qui donnent lieu à des manières de se mettre d'accord très différentes et de partager assez différentes, mais en tout cas c'est vraiment une forme que j'ai retrouvée dans énormément d'endroits. Il y en a partout en Europe de l'Est, il y en a à Sumatra en Indonésie, il y en a en Afrique, il y en a j'en ai trouvé bien sûr aux États-Unis, dans toute l'Amérique latine. Vraiment, c'est une forme qu'on trouve vraiment beaucoup. Alors c'est maintenant, peut-être qu'elle n'est pas universelle et qu'elle n'a pas d'excellence intrinsèque, mais enfin, il se trouve que c'est quand même une forme qui me semble assez équilibrée. Et je ne pense pas que ce soit une tarte à la crème. Enfin, c'est aussi, je dirais, une forme qui convient à la fois à l'individualité et à la communauté. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ça, et comme hier, ça a pu être pensé comme un lieu où, justement... comme dans les écoles progressistes, hein, toutes les écoles progressistes, enfin quand même, toute la pensée de l'éducation moderne passe par le jardin partagé, qui est partagé en plus, parce que ce qui est important, c'est que même Montessori ou Freinet, ils associent les enfants au dessin géométrique du jardin et au choix. Voilà, on leur dit, où est-ce que vous le voulez? Enfin, je veux dire, ce qui est très important, c'est que les gosses sont associés d'emblée à la création du jardin partagé. Et ce qui est très important pour Montessori, par exemple, c'est que chaque gosse, alors des fois ils sont deux, ils peuvent avoir un mètre carré de terre, hein, des fois, mais parfois ils ont plus, ça dépend encore une fois de l'espace disponible. Mais donc en fait, chaque enfant va avoir la responsabilité d'un petit lopin. Ce qui ne veut pas dire qu'il est isolé. Ça c'est intéressant, après on peut repenser à l'indépendance. L'indépendance ne signifie ni l'isolement, ni l'autonomie, et ni l'autarcie, bien sûr. L'indépendance, c'est complètement autre chose. Donc là, bon, il faudrait être beaucoup plus précis, mais je pense que cet idéal d'indépendance, c'est un idéal humaniste, en fait. C'est celui qu'on retrouve un peu à la clé, à la fois de la culture de soi et des civilisations. Donc voilà, c'est ça que je voudrais répondre à votre... Alors par ailleurs, je conviens tout à fait qu'il y a des schématisations, il faudrait rentrer dans les détails... Et... Maintenant, en plus, je ne suis pas une sociologue, il y a des travaux que j'ai faits. D'ailleurs, j'ai hésité là, entre l'enquête et le récit, une espèce de conte philosophique en quelque sorte. Bon, j'ai préféré, je trouvais que c'était plus efficace de voir les choses de très loin, un peu de haut, en brassant des quantités de textes très très différents et d'expériences très différentes. Mais c'est vrai que l'enquête aurait. Enfin, je suis pas sûre que l'enquête aurait mené à autre chose. Enfin, j'ai lu beaucoup d'enquêtes, hein, par contre. Par exemple, aujourd'hui, sur des jardins partagés, que ce soit des jardins russes ou des jardins urbains dans les grandes métropoles.
Non, là, je parlais de l'enquête au sens pragmatique, hein, c'est-à-dire.
Oui, non, je sais, oui.
Ah, d'accord.
Oui,
okay.
Oui, une enquête.
Mais il parlait de réseau semence paysanne.
Oui, non, mais par exemple, c'est-à-dire dans quelle mesure un objet, un territoire, etc., devient un moyen d'enquête. Donc là, par exemple, les semences, dans quelle mesure ça devient un moyen d'enquête sur ce qui se passe, l'agro-industrie et compagnie, quoi, par exemple.
Oui, tout à fait. Et là, en l'occurrence, moi, je peux dire, j'ai pas fait des stages de permaculture, mais j'aurais pu, j'y ai réfléchi, et puis j'avais pas le temps, j'étais effectivement des collègues. Et cela dit, j'ai quand même pas mal cité, par exemple, sur la question des semences, moi j'aurais aimé en parler plus dans mon livre, enfin voilà, ça parle de beaucoup de choses, et j'avais pas trop la place, mais c'est vraiment une question que j'ai trouvée très intéressante, et je joue beaucoup de choses sur la question des semences et les enjeux, justement. Voilà.
Pour rebondir par rapport à ce rapport à la forme du jardin partagé, une expérience où moi j'étudie des formes qui sont plutôt des transitions entre les grandes agricultures, les jardins, les lotissements et les villages. Et le village, il n'y a pas le rapport forcément au fer avec la terre et le végétal, mais aussi le rapport au fer avec les techniques bâties de construction.
Bien sûr, oui.
Et il me semble que c'est aussi d'autres formes où on peut avoir des systèmes démocratiques. Exactement comme le
jardin partagé. Bien sûr.
Mais avec des savoir-faire diversifiés.
Absolument. Oui. Il y a un autre type de jardin là dont je n'ai pas du tout parlé, mais moi qui m'a beaucoup touchée, c'est ce qu'on appelle les jardins thérapeutiques. Et c'est vraiment intéressant. Et en fait, c'est les jardins thérapeutiques qu'on a créés. Enfin, il y en a des très anciens pour. L'instituteur des idiots là, avait créé des jardins thérapeutiques. C'est-à-dire en fait des jardins pour les psychotiques. Et puis après, ensuite, en fait, les Américains ont beaucoup développé ça au retour des vétérans, finalement. Alors c'est intéressant parce que les vétérans qui vous expliquent, ça aussi, j'ai lu beaucoup de choses où ils vous expliquent que justement, au lieu d'être soignés, c'est eux qui soignent et que ça les aide vraiment, en plus que ça les entraîne. Les membres blessés, etc. Et que, au lieu d'être justement uniquement dans la position d'être soigné et de tuer, ils sont dans la position de soigner et de faire vivre. Donc, c'était vraiment touchant et intéressant aussi de voir finalement en quoi le jardin partagé de l'hôpital, qui est vraiment est un service hospitalier, c'est intégré dans. Donc, c'est vraiment intéressant, ça aussi, ça fait comprendre des choses. Bon, sans compter que, évidemment, il y a de la question alimentaire, là, j'en parle pas, mais elle est toujours très, très présente dans ce modèle.
Sur l'énonciation partagée de la situation d'urgence écologique, ça c'est les discours qui ont préexisté à la construction du contrat de cet écoquartier. Voir un petit peu sur quelle base ils avaient énoncé, justifié et tenté de promouvoir la vision de ce quartier. Et les deux questions qui revenaient régulièrement, c'était le dérèglement climatique. Mais je pense qu'il y avait un effet aussi d'aubaine médiatique, hein. C'était audible par les acteurs, au moins c'était une question d'écologie sur laquelle tout le monde avait à peu près une vision. Et la deuxième chose, c'était plutôt portée par l'élu Simone Charly, qui était la question de la crise énergétique, mais qui a été moins repris, notamment chez les opérateurs de l'Absol, parce que pour eux, vous ne voyez pas à quoi ça correspondait. Et ça, c'est l'énonciation partagée. Hein. Après, la profondeur de... Si tu veux examiner, si tu sondes de façon bateau, hein, tu balances le truc et tu sondes pour voir. Ça, c'est dans la construction du dispositif qu'on a vu, effectivement, des profondeurs complètement asymétriques entre les acteurs. Certains allaient en trempe très profondément sur les conséquences locales de la crise climatique et d'autres étant plutôt en surface en disant c'est un problème global, donc on va y contribuer légèrement. Mais les villes sont acteurs, enfin, tout le discours que tu as rencontré souvent en travaillant là-dessus. Sur la dépolitisation d'urgence, c'est la dépolitisation d'urgence dans la construction de la négociation, c'est-à-dire le recentrement technique au détriment des conséquences. Et ça, mais c'est assez classique, hein, Notre-Dame-de-Lorme, c'est ce qui va se produire probablement. On est tous d'accord sur le fait que ça pose problème la mobilité internationale, et puis après, est-ce qu'on y associe cet élément-là, ou on retranche cet élément-là. Et en fait, l'une des meilleures manières de clore la controverse, c'est de la reformuler, et notamment de la reformuler sur une base sur laquelle tout le monde va participer, y compris les opposants, qui est la base sur l'expertise technique, de la déperdition énergétique des bâtiments, des flux de mobilité, etc., etc. Voilà, ça c'est des choses. Et après, ça fait la thématique de la catastrophe a été très rapidement mise de côté par les opérateurs du débat public. On ne va pas faire peur aux habitants, des choses comme ça, etc. La spécificité, alors, il y en a trois essentiellement. Les habitants absents, je l'ai signalé. Le fait que des acteurs maintiennent dans le temps une contre-argumentation. Ça, c'est assez... dans le cadre des dispositifs participatifs, on voit qu'il y a un ou deux meneurs, leaders, mais il n'y a pas forcément des logiques collectives. Là, la logique collective, elle a été maintenue dans le temps. Ça, c'est assez étonnant. C'est assez rare. D'habitude, c'est des experts qui sont auto-sélectionnés par le groupe. Et puis, la troisième spécificité, je n'ai pas évoqué beaucoup ici, c'est le poids des entreprises. Jamais présent dans les dispositifs participatifs, mais dès qu'il y a une question à trancher, ils passent un coup de fil et ils obtiennent gain de cause. L'exemple, c'est Kipsta, une toute petite entreprise locale, hein, Kipsta, qui dit, bah, nous, pour notre pôle de développement, il faut une surface au sol de... 4 hectares, je ne me souviens plus le chiffre au départ. Sur 80 hectares, et c'est pas mal comme truc. Et puis finalement, ils obtiennent une bonne cause et disent bah, après, ça ne suffit pas. Et sans jamais que ce soit débattu dans le dispositif participatif, ils vont voir leur surface au sol doubler. Doubler. Et ils ont réussi à faire rentrer une partie de leur surface végétalisée artificielle, donc des gazons synthétiques, dans les surfaces naturelles au sol. C'est quand même fabuleux. Et sans jamais que ce soit discuté publiquement, etc. Donc ça, c'est bon, les coups de fil, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce qu'on a essayé de rentrer dans ces réseaux, ce qu'on appelle les réseaux interstitiels de la négociation, c'est ceux qui ne sont pas visibles mais qui pèsent sur l'espace délibératif. Et là, on voit bien que Kipsta, l'artificialisation des sols, ça ne pose pas de problème. Le fait d'élever des barrières de migration des espèces, ça ne pose pas de problème. Le fait d'inciter à la mobilité géographique, les gens viennent sur cet espace de consommation, ça ne leur pose pas de problème, etc. Mais par contre, il y aura des ruches pour les abeilles sur le toit, il y aura des nichoirs aux oiseaux, enfin bon, des grandes avancées écologiques. Bon, ce n'est pas très original non plus dans le monde de l'entreprise. Hein.
Bon, parfois, je me demande si j'ai bien compris à cause de la langue.
Non. Bien sûr.
Mais, bon, voilà. Quand je pense au Brésil, hein, à une ville comme São Paulo, on a beaucoup, beaucoup de problèmes d'urgence, voilà. Et si on parle des jardins partagés, ça semble un absurde. Dehors de la réalité. Mais quand on pense, par exemple, on mène des processus d'agenda 21 en pensant que pour arriver à un nouveau modèle de développement, on n'arrivera pas si on ne fait pas des agendas locaux. Ça veut dire ajouter la population, associer la population locale, chaque individu avec l'administration publique. Et là, on fait l'exercice justement de faire penser dans un bien commun. Donc, je pense que dans ce sens-là, oui, il y a une logique des jardins partagés, parce que si on pense dans le sens commun, que tout le monde est engagé pour la participation. Donc, les jardins partagés peuvent être un espace parce qu'on a déjà un espace de réflexion et on a quelques zones pilotes pour exercer ça. Et donc, dans ce sens-là, je pense que les jardins partagés, c'est les champs qu'on peut traduire comme les champs d'exercice de la construction ensemble d'un lieu commun. Et on peut aussi penser dans un jardin partagé à plusieurs échelles, je pense, qu'on arrivera à l'échelle des planètes.
Planétaire, oui. C'est ça.
Je voudrais poser une question du même ordre pour que tu puisses répondre. Enfin, je suis ce que dit Cynthia. Je suis très content parce que dans ce genre de truc, on est surpris, c'est pas ce à quoi on s'attend, les interventions. Donc c'est la richesse du truc, bien évidemment. Et donc sur l'intervention qu'a fait Joël, moi ça m'intéresse beaucoup. D'abord parce que c'est justement l'expérience qui est à la fois expérimentation et expérience sensible. Elle arrive à tenir les deux. Alors ça déconcerte quand on a une vision trop expérimentaliste, rationaliste, mais je pense que justement le fait de jouer à la fois de l'expérimental et du sensible, c'est intéressant. Donc ton travail, ça exprime ça, à mon avis. L'autre chose, c'est que...
C'est grandi à la campagne.
Ah oui, donc voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose, on voit bien que tu nous parles de quelque chose qui te tient à cœur. L'autre aspect, c'est le lien entre le pragmatisme et le risque. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à développer. C'est pas pour rien, quand on travaille sur le risque, on est sollicité par le pragmatisme. Alors je pense qu'il y a un lien, et bon, est-ce que c'est la guerre qui est un peu le côté noir qu'on ne voit pas, le pôle obscur, enfin c'est possible. L'autre aspect, alors qui est vraiment intéressant, l'exclusion des paysans, moi je retrouve ce que disait Berck sur la foreclosion, hein, c'est vraiment ça, quoi. C'est le regard seigneurial qui, foreclosant l'immonde labeur du paysan, n'y voit que du paysage. Je trouve ça magnifique. Parce qu'on exproprie la dimension esthétique de ce que fait le paysan, on exproprie sa dimension maintenant production de l'environnement, puisque c'est les environnementalistes qui vont pilonner sur les paysans. Et du coup, avec cette modalité élitiste, on a une saisie esthétique des campagnes qui deviennent des paysages, etc. Bon, enfin bref, c'est connu, mais c'est fort dans ce que tu dis, parce qu'on le retrouve aussi. Et l'autre aspect, alors moi je reviens sur ce que dit Cynthia, je me dis, comment mettre en culture ces zones contaminées, finalement? Comment? Mais en culture au sens fort, hein, pas mettre en culture, évidemment, c'est pas se mettre à labourer dedans, mais comment mettre en culture? Mais ça va être ça aussi, ces zones contaminées, et je pense qu'effectivement, le jardin partagé, c'est tout à fait une solution. Parce que d'abord, ceux qui sont dans ces zones contaminées, ceux qui font des occupations irrégulières dans les espaces naturels, c'est des gens qui étaient auparavant des mouvements des sans-terres, qui viennent du Nord-Est, qui viennent de différents endroits, qui viennent de zones rurales, et qui crèvent littéralement de ne pas accéder à la terre. Mais nous, on avait traduit ça au départ, « Ah, faut que vous accédiez à des parcs urbains !» Finalement, on leur avait dit, c'est dommage, vous êtes en train de gâcher la possibilité d'avoir des parcs urbains pour vous détendre le week-end. Mais c'est qu'un élément de la solution. L'autre élément de la solution, ce serait de dire, effectivement, pour que cette culture du risque devienne une véritable culture, faut qu'il y ait cette appropriation du nouvel environnement. Et ce que tu dis, tu nous donnes une piste. Moi, je pense qu'effectivement, l'appropriation de ce nouvel environnement, elle pourrait se faire par les jardins partagés. C'est quelque chose qu'on devrait traduire, parce qu'on argumente peut-être à contre... On s'est planté dans notre argumentation, on leur dit, mais non, mais c'est vos futurs parcs, vous êtes en train de... Le week-end, vous allez vous balader là, vous êtes en train de gaspiller. Mais non, on devrait leur dire, il y a possibilité de jardins partagés, et je pense que c'est une piste là que tu nous indiques. Donc ça, c'est la question pour toi. Et puis la question pour... j'essaie de resituer ça par rapport à notre thématique, hein, c'est normal. La question à Bruno, moi je trouve que son quartier de l'Union, il nous évoque beaucoup de choses aussi quand on parle du Brésil. D'abord, la surdétermination des enjeux sociaux, qui est très forte, la pauvreté, il y a tout un ensemble de dimensions qui évoquent nos métropoles insoutenables. Ce que je voudrais voir discuter avec toi, c'est la notion de processus. C'est-à-dire que, ok, autant T, c'est durable, l'intensité de la durabilité, tu évalues ça autant T, c'est durable, ça l'est pas, c'est une durabilité intense, c'est une durabilité forte ou faible. Ok, mais si on s'applique à des secteurs comme les nôtres, ceux sur lesquels on travaille avec Cynthia, on est dans la durabilité zéro. Donc cette durabilité zéro, nous on ne peut pas raisonner en termes de durable, faible, durable, forte, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on raisonne en termes de trajectoire de durabilité. Est-ce qu'on peut faire en sorte, avec les moyens dont on dispose, d'amorcer une trajectoire de durabilité et de savoir qu'on est toujours en train de rectifier? On est dans un processus, alors on n'a pas besoin de parler de pragmatisme, un processus, feedback, on est dans quelque chose qui doit se rectifier au fur et à mesure. Et est-ce que toi, tu as réfléchi à ça? Parce que lorsque tu nous as traduit, on avait la position... alors, pas normative, c'est injuste de dire normatif. Non, mais tes valeurs aussi, elles sortent. Donc, tes valeurs, c'est c'est pas assez durable, quoi. C'est ça qui sort quand même, une espèce de déception devant quelque chose qui pouvait s'annoncer bien, et t'es déçu. Bon, mais est-ce qu'on pourrait reprendre le jugement en se disant comment se garder des critères pour que on gère quelque chose qui est un processus d'innovation, c'est-à-dire où tu juges en permanence l'adéquation à l'environnement, la capacité de transformer de l'environnement et de réinvestir avec les transformations de l'environnement pour aller plus loin, tu vois, avec des gens qui doivent être garants d'accompagnement du processus. Autrement dit, est-ce qu'on fait une évaluation de l'innovation au fil de l'eau, hein, qui permet de suivre un peu ces transformations, et, parce que nous, on est dans une situation comme ça, on ne peut pas dire, est-ce que c'est durable ou pas? Ben nous, ce n'est pas durable, c'est tout, on le sait, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il n'y a pas. Mais par contre, je trouve que la zone sur laquelle tu as travaillé, elle est super intéressante pour nous, parce qu'il y a vraiment des tas d'effets de transposition, ça résonne vachement bien. Donc c'est un peu les deux questions que j'avais à vous poser.